Bien, chers amis, nous voici donc pour notre entrée dans l'épître aux Romains. C'est la lettre la plus longue du Nouveau Testament. C'est la raison peut-être pour laquelle nous pourrons y consacrer deux séances. De toute façon, deux séances sur l'épître aux Romains, c'est pas plus grave que ça pour ceux qui ne supportent pas du tout Paul, parce que de toute façon c'est que du Paul cette année. Alors, évidemment, l'épître aux Romains est peut-être l'épître la plus emblématique de Paul, plus emblématique au sens du style paulinien, au sens du Paul théologien. C'est une lettre qui va avoir de très grandes répercussions dans l'histoire du christianisme, parce que Augustin, parce que Martin Luther en particulier, et de façon générale, tous les grands théologiens s'y référeront, et parmi ceux-ci, on ne peut pas faire autrement que de citer Karl Barth. Karl Barth qui, ne serait-ce que dans son petit commentaire de l'Épître aux Romains, compose ce qui constituera un édifice théologique dans le courant du XXe siècle. Avec, pour ce qui est de Karl Barth, des conséquences très importantes, notamment sur les relations avec le judaïsme, relations positives dans l'esprit de Karl Barth, ce qui conduira une partie du protestantisme début XXe siècle à avoir une attitude extrêmement bienveillante à l'endroit du peuple élu. Alors, notre épître aux Romains, elle est en général datée des années 57-58, hiver 57-58, c'est-à-dire l'époque à laquelle on constate que Paul est à Corinthe. Et alors cela se repère de deux manières. Tout d'abord dans l'Épître aux Romains au chapitre 16, verset 23, il y est question de son hôte. Il habite chez Gaius. Et Gaius est un personnage important de Corinthe, et on le retrouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 1, verset 14. On peut donc estimer que Paul l'écrit en 57-58 parce qu'il est à Corinthe et que ça correspond à la chronologie relative de ses voyages. On peut en savoir plus aussi sur le contexte en s'intéressant au destinataire de cette lettre, l'épître aux Romains. Les Romains. Alors, certains ont émis l'hypothèse que les Romains n'étaient qu'une sorte de prétexte, c'est-à-dire la communauté de Rome pouvait ne pas être considérée comme suffisamment importante pour être vraiment la communauté à laquelle s'adresse Paul, dans la mesure où ce n'est pas Paul qui a fondé cette communauté. Paul n'est pas allé à Rome au moment où cette lettre est rédigée. Mais il y a quand même 26 personnes qui sont saluées par Paul au chapitre 16. Et le fait que 26 personnes soient saluées par Paul laisse entendre que la communauté de Rome n'est pas juste un prétexte, mais qu'elle est véritablement le destinataire. Alors, je soumets ces éléments historiques à votre savoir et à votre critique, mais on estime qu'au 1er siècle, il y a entre 40 000 et 50 000 habitants à Rome, et qu'il y a donc matière à ce qu'une communauté chrétienne ait effectivement pu prendre chair. Et on le trouve dans quelques écrits qui, manifestement, sur le plan historique, ne sont pas tout à fait bien attestés. Je veux parler des annales de Tacite et de Claudius de Suétone. Non pas que ces deux textes soient mal attestés, mais qu'on imagine que lorsqu'on parle des chrétiens, il y a ce qu'on appelle des interpolations chrétiennes, autrement dit des passages qui auraient été rédigés par les chrétiens dans la transmission du texte. Donc il est toujours difficile de savoir si, lorsqu'il est question des chrétiens, par exemple dans la notice de Suétone sur Claudius, c'est bien Suétone qui a écrit, ou alors si ce ne sont pas des chrétiens qui parlent des chrétiens pour attester que les chrétiens étaient bien présents. Bon, toujours est-il que si on prend ces sources-là, qui sont considérées comme des sources extra-chrétiennes, donc, j'allais dire, dignes de foi, parce qu'évidemment, quand c'est de l'auto-célébration, sur le plan historique, ça a moins d'intérêt. On peut dire que dans le récit de Tacite, quand il est question de la persécution par Néron après l'incendie de 64, il y est fait mention à Rome de la distinction entre les chrétiens et les juifs. Donc, en 64, les chrétiens sont attestés. Et on les distingue des juifs. Parce que, évidemment, la lettre de Paul n'est pas un document historique en soi. C'est une lettre qui a besoin d'être mise en parallèle avec d'autres documents.
C'est le terme chrétien qui est utilisé ? Ou c'est pas le terme chrétien ?
Christianoï.
C'est le terme christianoï.
Christianoï.
C'est pas le terme nazoréen ?
Non.
Non, c'est vraiment
le... Voilà. Si on prend la lettre de Paul, vous allez dans Romains chapitre 15, verset 23, il y est précisé que cela fait des années qu'il veut rendre visite à la communauté de Rome. Donc cela laisse entendre que cela fait des années qu'il y a des chrétiens à Rome. Et si vous prenez le tout début de l'épître aux Romains, le chapitre 1, le verset 8, il est écrit... « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. » On peut toujours se dire que c'est un effet de style, mais il y a quand même cette question d'une renommée qui dépasse largement le cadre de Rome. On peut penser qu'il y a au moins un fond de vérité. Peut-être que c'est un peu exagéré de dire que la foi des Romains va jusqu'aux confins de l'univers. Mais en tous les cas, certainement, c'était une communauté qui avait quelques renommées. Et alors, cette renommée, elle peut s'expliquer par une sorte de diaspora de la communauté de Rome. Et ça, c'est ce qu'on trouve justement chez Suétone, dans sa notice sur Claudius. Ce qui laisserait entendre qu'il y aurait une fondation de la communauté de Rome autour de 50. Il y est question... de l'expulsion par Claude des Juifs de Rome à cause de troubles suscités par Crestus. Est-ce que ce Crestus ne serait pas Christ ? Vous voyez, c'est une conjecture. Mais il se pourrait qu'il y ait un conflit au sein de la synagogue entre, disons... les pro-Christ et les pas pro-Christ, parce que antichrist, ça serait un peu exagéré, et que ce conflit que l'on trouve, par exemple, en Galilée, on le trouve également à Rome, et que pour régler ce problème de trouble, l'empereur chasse des Juifs de Rome et qu'il se retrouve de nouveau en Galilée. Et donc... On peut conjecturer éventuellement l'idée d'une diaspora qui atteste la renommée de la communauté de Rome. Enfin, si on s'intéresse au contenu de l'épître aux Romains, on voit qu'il y a question beaucoup de la foi, ça va être l'objet de notre thème, mais en fait la foi c'est pas à proprement parler une donnée du Premier Testament. D'ailleurs, si vous interrogez actuellement la communauté juive, elle vous dira que la foi ne rentre pas dans ces catégories de pensée. En revanche, la loi est l'élément foncièrement structurant, et il y est bien sûr fait énormément question de la loi. Et peut-être que la difficulté que nous avons avec l'épître aux Romains tient au fait que nous avons du mal à comprendre quel était l'arrière-plan théologique de la communauté, parce que ça n'a arrière-plan plutôt fondé sur le judaïsme, et que ça nous semble peut-être un peu éloigné de notre centre de gravité. La loi, les œuvres, voilà qui, en régime protestant, a été, comme qui dirait, digéré. Et du coup, il est difficile pour nous de comprendre l'enjeu auquel Paul est affronté. Donc, on va voir, en lisant toute l'épître aux Romains, vous verriez qu'il y a notamment la question de la loi qui est un accent particulier qui va mobiliser l'attention de Paul. Puis il y a bien sûr le rapport entre juifs et judéo-chrétiens en termes de continuité et de rupture. Et cette question montre qu'il y a finalement une communauté de Rome qui est peut-être le fruit d'un exode de juifs de, disons, Palestine, pour employer un terme utilisé à l'époque, vers Rome, et que Paul s'adresse à une communauté qui est foncièrement de racines juives, par opposition à d'autres qui seraient plus pagano-chrétiennes, disons. Oui. Donc voilà pour quelques éléments d'introduction. Si vous avez quelques autres questions, on va plutôt après rentrer dans le texte Romains 5, de toute façon. Si vous aviez des éléments complémentaires, plus que des questions, parce que je ne suis pas sûr que j'ai forcément les réponses, mais s'il y a d'autres éléments qu'on peut partager, alors je propose qu'on rentre dans le texte. On va peut-être le prendre en deux parties, puisqu'il y a quand même deux grosses parties dans ce chapitre 5. La première partie, c'est les versets 1 à 11. Et puis ensuite, la deuxième partie, 12 à 21. Donc, je vous propose peut-être qu'on commence par la lire tout d'un bloc, hein, de 1 à 11 inclus. Comme ça, chacun l'a dans l'oreille. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet, en prenant les versets les uns après les autres. Si quelqu'un veut bien se dévouer.
Les gens donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne change point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.
Merci. On lit juste la première partie, et puis on va essayer de la traiter, et puis la deuxième partie, on la traitera un peu séparément. Bien. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire comme ça, en première intention, hein, vous comprenez bien que je m'en fiche de vos réponses au catéchisme en disant « c'est Paul, c'est bien, ça m'intéresse, ça me plaît ». Si vous avez des récriminations, si vous avez des exaspérations, si vous avez... Voilà. Quel est votre vrai sentiment au sujet du passage que nous venons de lire ?
Moi, ce qui me dérange, tout de suite, et qui va être repris... Après, dans la deuxième partie, c'est que cette notion de péché, c'était bien évidemment personnellement totalement en désaccord, et cette culpabilité que Paul ouvre, qui va être très lourde par la suite, bien évidemment développée chez Augustin de façon absolument dramatique. Et chez Luther aussi dans une certaine mesure par rapport à ses angoisses. Donc je trouve que par rapport à l'évangile, aux évangiles, et au message du rabbi, Paul introduit la culpabilité, introduit le fait que nous serions damnés, bon après dans toute la deuxième partie, depuis Adam, le péché, etc., etc., nous sommes vraiment insauvable, alors que le message de Jésus, en rupture, et pas tellement en rupture d'ailleurs, avec la Torah, ne nous induit pas dans cette notion de culpabilité, dont je pense personnellement que Paul porte la responsabilité en faisant de nous des gens coupables.
D'autres avis ?
Mon avis tout à fait contraire.
Oui.
Ce qui ressort pour moi,
oui.
Ça, peut-être pas la deuxième partie pour moi.
Oui, celle-ci pour l'instant.
C'est l'espérance.
Oui.
Au contraire, nous sommes dans la détresse et Dieu nous donne l'espérance.
Mm-hmm.
Il est mort pour nous, pour justement nous sortir de cette ornière,
d'accord.
De cet abîme.
Donc Dieu est vivant pour nous, il n'est pas mort.
Oui, dans ce texte, on ne parle que d'espérance.
D'accord.
Oui, mais Dieu est mort pour nous, alors que Paul nous parle de la mort de Dieu, enfin de la mort du Christ. Or, Christ est vivant.
D'accord. Un troisième sentiment.
Alors, c'est pas un pavé dans la mare, mais j'ai voulu lire
oui.
L'édition de celle que j'avais toujours eue,
oui.
De l'Actor,
la traduction œcuménique.
De 72.
Hein. D'accord.
Bon, je souris, 72. Bon. Je me suis demandé si aujourd'hui les éditions les plus récentes avaient exactement la même introduction. Et c'est là où je l'avais lu il y a longtemps, mais du coup j'ai essayé de raviver cette lecture. Ce qui est dit, c'est qu'il y a eu énormément de films à retordre pour tous les exégètes de l'époque. Alors, cela a réussi à fonctionner avec les catholiques et protestants. Il y a eu de très gros problèmes, surtout d'herméneutiques par rapport aux orthodoxes. Et l'Actobre justifie l'ordre choisi dans le Nouveau Testament, justifie cet ordre. On commence par cette pierre de touche, ce qui a posé le plus de problèmes historiquement, parce que j'ai vu quelqu'un aussi, finalement, il y a eu en 1540, j'avais lu ça il y a 20 ans.
Moi, je dirais, et votre sentiment personnel.
Est-ce que l'introduction d'aujourd'hui est différente de ce que j'ai vu là et relu?
Je ne sais pas, je ne connais pas les termes d'introduction, mais on pourrait surtout considérer que si l'épître aux Romains vient en tête, c'est parce que c'est la plus longue, et qu'en général, c'est alors, comme cela qu'on procède, y compris dans le Coran.
Par exemple, là j'entends le mot, là aussi je suis contente que vous ayez dit grec, par exemple, on dit que le mot, disons, la panoplie, justification, etc., c'est de l'aoriste. Alors, ça m'amuse que ça. C'est ce qu'on avait dit l'autre jour. Le temps choisi, enfin, l'aoriste.
Mm-hmm.
Bon, c'est-à-dire qu'on a l'air de considérer que devant, après cet aoriste, il y aurait peut-être. Alors,
c'est-à-dire le temps utilisé pour conjuguer les verbes.
Hein. Et ensuite, l'espérance pourrait peut-être surgir malgré tout.
Donc, un événement ponctuel qui permet autre chose. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt vous que les introductions, à vrai dire. Hein, parce que ce qui est important, c'est le lecteur face au texte.
Alors, ce qui je me suis posé, parce que je suis toujours avec Pierre quand même là, pour discuter, ce qui m'intéresse, c'est le mot faute à Martano.
Oui.
Parce qu'avant Aristote.
Donc, plutôt péché dans nos traductions.
Ce qui m'intéresse également, c'est justification.
Mm-hmm.
Puisque c'est le premier mot là, en grec.
Mm-hmm.
C'est le tout premier mot. Alors, je me suis dit, oh là là là, il faudrait que travailler, que je travaille énormément, peut-être avec Pierre, justement, pour essayer de confronter un petit peu.
Je vois pour lui dire.
Bon, alors, je vous propose que, justement, puisqu'il s'agit de travailler ces termes, qu'on rentre dans les versets, et puis on va essayer de donner du sens.
Voilà, simplement, je vais m'arrêter. Mais au point que je me suis demandé, mais du coup, peut-être aiguillonné par Pierre, hein, parce qu'il faut dire aussi que, du coup, on cherche à comprendre, je me suis demandé, est-ce que le terme est juste, dans le sens le mur des justes de Jérusalem, ne rendrait pas bien compte là de ce lexique justification.
Alors on pourrait dire que, puisque voilà, je vais prendre la transition, que justement par rapport à la question des justes, Paul va être en rupture. On a donc ce premier verset, étant donc justifié par la foi, Ça, c'est en fait une rupture considérable dans le, par rapport au judaïsme, où on est justifié par l'obéissance à la loi. Donc, comme je vous le disais, la foi ne rentre pas dans les catégories. Et la loi, en revanche, c'est ce qui est le chemin du salut.
C'est une citation cachée de Habakkuk, quand même.
Oui, vous pouvez...
Le juste sera sauvé par la foi.
Oui. Oui, c'est juste. Ouais.
Alors, rupture ou non ?
Je dirais rupture par rapport à, au texte de la Torah, quand même. Mais vous avez raison, Habakkuk, de ce point de vue-là, offre les prémices de Paul, oui. Oui, vous avez raison, on ne ferait pas être trop radical sur une rupture entre l'Ancien et le Nouveau. D'ailleurs, l'Épître aux Romains montre tous les liens qu'il y a, c'est-à-dire le rejeton qui sort du même tronc. Mais la Torah est présentée comme ce qui permet d'accéder au salut, disons. Y compris quand on prend la métaphore de la terre promise, il s'agit de suivre l'arche d'alliance qui contient le décalogue pour pouvoir avoir accès à la terre promise. Et ici, on est déclaré juste sans les œuvres, en fait. Ce qui va être un thème majeur chez Paul. La question qui pourrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la foi ne deviendrait pas une œuvre dans les églises protestantes? Est-ce qu'on ne ferait pas de la foi une sorte d'œuvre, montre-moi ta foi et je te dirai si tu es croyant ou pas, en quelque sorte. Vous voyez, une sorte de caractère ostentatoire de la foi que l'on se fabrique, où on se fabrique une histoire de conversion, etc. Et on accumule les preuves de la foi, et un peu comme on montrerait une œuvre, finalement. Ça peut être pour nos déviances protestantes. Toujours est-il que pour Paul, être justifié par la foi, c'est donc un décalage par rapport au respect scrupuleux de la loi et de la loi seulement. Et c'est la foi qui conduirait à la paix. Et alors, je pense que ça dit déjà quelque chose de ce qu'est la foi. Parce que si la foi conduit à la paix, on peut dire que la foi, dans ce cas-là, elle a plutôt un rapport avec le thème de la confiance. C'est-à-dire ce qui permet de neutraliser les peurs, les angoisses, les inquiétudes, enfin bref, tout ce qui suscite la violence, tout ce qui suscite la défense vis-à-vis de l'autre et qui, en fait, empêche la paix. La foi, ce qui permettrait de désamorcer les conflits et qui permettrait d'obtenir la paix. Une sorte de tranquillité de conscience, pour reprendre les mots de Calvin.
Excuse-moi, dans l'Évangile, c'est pas la foi, c'est l'amour.
Mais il est question d'amour, là, on va le voir.
Oui, mais pas dans le même sens.
On va voir. Pas sûr. Moi, je vais, évidemment, je vais défendre notre petit Paul, donc vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Je ne le défendrai pas jusqu'à la mort sur une croix, mais... Je me ferai l'avocat de Paul, autant que possible. Alors, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il me semble que là, l'introduction de Jésus-Christ est aussi quelque chose à mettre en lien avec les racines juives. On ne peut pas se tenir devant Dieu. Il y a cette idée qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et ça, on le trouve de manière un peu métaphorisée dans le livre d'Esther. Alors, peut-être que je me trompe dans l'analogie, c'est une proposition que je vous fais. Dans le livre d'Esther, on dit qu'on ne peut pas se tenir devant le roi. Sauf si le roi tend son sceptre de façon à ce qu'on puisse le toucher et que du coup on ait la vie sauve. Et c'est ce qui va se passer avec Esther. Elle a une requête à faire auprès du roi. Elle va donc dans l'espace interdit. Et là, le roi lui tend le sceptre et donc elle a la vie sauve. Et il y a une sorte de médiation. Et en quelque sorte, Jésus serait le sceptre. Vous voyez, Jésus, c'est ce qui nous permet de nous tenir devant le roi, devant l'absolu, en ayant la vie sauve, en quelque sorte, le sauve-conduit.
a vu le Fils a vu le Père.
Aussi.
Bah oui, mais c'est contradictoire.
Non, parce que dans le cas présent, c'est donc le Fils ou le Seigneur Jésus-Christ qui rend possible la présence devant Dieu. Ça autorise, avec tous les fruits qui en découlent, à savoir la paix dans...